bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. La bande originale avec Léa Cadou Boudadi.
Bonjour à tous.
Daniel Morin.
Bonjour.
Ça va bien, Daniel?
Oh, pleine forme.
Albert,
bonjour.
Jérémy Crédit.
Bonjour.
Tout à l'heure, Tanguy Bachot. Et nos invités, Noémie Schmitt et Hippolyte Cadou.
Bravo.
Bonjour. Bonjour. Trop contente.
Qu'est-ce qui se passe?
Je vois Noémie que je rencontre pour la première fois, qui a des yeux émerveillés, hyper contente et qui. Mais voilà, quoi, c'est un bonheur de
me
voir.
Elle vient me croiser.
Oui, ça aussi, c'est vrai que ça fait l'effet.
On va pas inverser, on va pas inverser les rôles. C'est nous qui sommes contents de vous accueillir en tout cas.
Ah bah ouais,
vous
êtes... encore, mais mieux, c'est.
Mais
génial.
Non, mais sans blaguer. Vous êtes une comédienne que nous avions déjà admirée et dont on avait déjà parlé à ce micro, mais jamais reçue. C'est la première fois que vous venez.
Tout à fait.
C'est votre baptême. C'est donc la dernière.
Dit, elle est complètement excitée, c'est génial.
Et j'allais dire en revenant, c'est pas le bon terme peut-être.
Bah,
si ça lui va bien.
Hein. Et on recommence avec qui on est pas en direct.
Jamais parti.
Bonjour Hippolyte.
Tout va bien Hippolyte?
Ça va très bien, merci.
Bon, vous êtes ensemble, vous tenez ensemble avec également Judith Elzem, puisque ce sont les rôles principaux de cette série qui va démarrer sur France 2. On va en parler dans quelques instants.
Ça s'appelle
Elle a déjà démarré le 26.
Lundi dernier.
Ça passe à une vitesse.
Ouais, lundi 26.
Il est à la rue, Nagui, il est à la rue.
Mais c'est fort.
Non, tu vas pas justifier
Attends, je peux expliquer.
Vas-y.
Il voulait pas spoiler le premier épisode.
Exactement. J'ai eu la chance de pouvoir voir les 6 épisodes. Depuis le début, je me dis qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux pas dire. Et à force de faire ça, je me suis interdit de dire quoi que ce soit sur l'avenir. J'ai même occulté le passé. Ça te va?
D'accord. C'est une excuse pour se planter sur les dates, ça.
Non, c'est pas une excuse.
C'est une belle tirade, Nagui.
Le lieutenant Angèle Maury, hein, c'est le rôle que vous incarnez, Noémie, dans cette série À l'intérieur. Donc, les deux premiers épisodes sont passés lundi dernier. Énorme succès à 21h05. Ouais. Hippolyte Girardot, lui, est le taulier, le patron de cet institut. Judith Elzein est votre épouse, même si l'ambiance n'est pas au beau fixe. Présence également de Béatrice Dalle, Jérémy Gillet, Grégoire le Prince Ringuet.
Les chansons d'amour de Christophe Honoré, c'est là que j'ai découvert et depuis je ne l'ai pas lâché.
Très bien. Émilie Dequesne, Fleur Geffrier, merci. Et Achille Ridolfi, qui est absolument superbe également. Enfin, tous les comédiens sont dingues dans cette série. On va en parler. Ouais, dingue, c'est beau. Mais d'abord, voici l'interro pour savoir ce que vous, justement, connaissez de nos invités. D'où vient la cicatrice, la jolie marque que porte sur le front Noémie Schmitt?
Un coup de boule.
Ouais, non. De son père.
Non.
Une chute. En tout cas,
c'est un
rap.
Oui.
C'est un couteau à raclette.
Non, attends. Chute enfant, mais on va. Laquelle?
Elle est tombée de voiture.
Ouais, c'est ça, ouais. Non, ok, d'accord. En fait, c'est en skiant, vous aviez 4 ans.
Waouh. Comment c'est ça?
Oui, ça vient tout. C'est tout. Dans le Valais, il y a de la neige.
Vous êtes plus résistante que Schumacher. Hein.
Il n'a pas de cicatrice.
Pardon d'en parler, mais je la trouve charmante et finalement vous n'avez pas cherché à la cacher plus que ça.
Ah non, ce certainement qui est fou, pas.
C'est à 4 ans vous êtes mangé un poteau.
Je me suis pris un poteau, ouais. Mais parce que mon père
m'avait. Un poteau de télésiège ou un quoi?
Oui, tout à fait, ouais. Sur un golf, donc à plat. Mais j'avais 4 ans, donc j'apprenais à skier. Et mon père m'a dit, bah vas-y, si tu veux y aller, essaye, quoi. J'ai fait, ok, je teste et j'y vais.
Je me suis
pris le poteau.
Et votre papa vous en veut? Enfin, il s'en veut, pardon. Parce que
c'est sa manière de. C'est comme ça qu'il m'a éduqué. Vas-y, teste et puis on verra bien.
Pour le vélo, alors, ça s'est passé comment?
Et pour la nage.
C'est une catastrophe. série d'ailleurs, je voulais qu'elle soit encore plus visible. J'avais demandé à ce qu'on me la maquille encore plus parce que je trouvais que ça amenait quelque chose au personnage, un pet au casque.
C'est vrai, c'est très métaphorique. Alors pour rejoindre les vannes de Jérémy et de Daniel sur tous les sports, vous pratiquez un nombre de sports incalculable. L'escalade, c'est ça, le ski. Il y a quoi comme sport? La marche, la course.
Je peux dire ce que je veux. En plus, c'est génial.
Non,
l'équitation.
Escalade, oui ou non?
Escalade, oui, bah oui, mais en fait j'ai grandi en Suisse avec des parents montagnards, donc j'ai tous les sports de la montagne, je les ai bien pratiqués. Ouais.
Et encore aujourd'hui, vous pratiquez un sport?
Le bobsleigh.
Le bobsleigh. Le Genepi ?
Ouais.
Ah bah c'est drôle, ouais, ouais.
Ah, c'est un sport.
En fond, bah, je suis allée cueillir du Genepi pendant l'été là.
D'accord.
Ouais. Tu pensais avoir une vanne, t'as mis une info.
Non, non, je cherche les points.
Quand Hippolyte est entré aux Arts Déco, c'était pour devenir art director pour le cinéma, mais pourquoi ça posait un problème
de devenir anglais.
Il était daltonien.
Non. Art director.
On maîtrisait pas paint.
Art director, c'est celui qui s'occupe de tous les aspects artistiques d'un film, la musique, les costumes, le décor et tout ça. Mais pourquoi ça posait un problème? Pourquoi
il était bordélique?
Non.
Il était gauché?
Non.
Il voulait intervenir sur tout, trop.
C'est le principe du métier d'art director.
Oui, je sais, mais il voulait pas laisser.
Il amenait ça déco.
Non.
Il savait pas dessiner.
C'est impossible de trouver.
Non.
Ah bon,
c'est impossible de trouver.
C'est un problème physique.
C'est pas un problème physique, non.
Une allergie?
Non plus.
Probablement ouais, mental.
Si Hippolyte dit que c'est impossible de trouver,
c'est vrai, c'est impossible.
Non, c'est impossible. Parce que ce métier n'existe pas.
Ce métier n'existe pas en France.
Super.
C'est un métier qui existe dans l'industrie cinématographique américaine où tout est très, comme ça, comment dire, séquencé et calibré. Et donc voilà, ça n'existait pas en France.
D'accord.
Ce mec est très malin pour choisir.
Comment vous est venue l'idée de faire ce métier? Comment vous avez connu l'existence de ce métier même?
Parce que quand on lit les génériques des films américains, il y a toujours marqué art director et je me demandais ce que ça voulait dire. Voilà.
D'accord.
Et en regardant, t'as vu directeur, tu t'es dit c'est pour moi.
Non, mais en regardant, je me suis dit ça c'est un job très très bien parce que la mise en scène, j'y connaissais rien. Et donc je me disais ça c'est super de faire ça sur un film.
Qui est Libellule pour Noémie?
Son ami imaginaire, son chat.
Pardon?
Un ami imaginaire quand on était enfant.
Un ami imaginaire. Toi, c'est vrai qu'on a tous eu ça. T'as eu ça toi aussi?
C'est un truc. C'est un exercice
d'orthophonie. Un doudou.
Son chat.
Albert, non, c'est pas son chat.
C'est un instrument.
Son vivant.
Vivant.
Un ami. Oui,
sa voiture.
Oui, vivant.
Sa voiture.
Non.
Libellule vivant.
T'as donné un prénom à ta
c'est
voiture.
Un être humain.
Oui, moi, c'est
dans une BD, il y avait une voiture qui s'appelait Libellule.
Vivant.
Libellule.
Sa sœur.
Qui est. Non.
C'est quelqu'un de sa famille. C'est...
Ah oui, très proche.
Très proche.
Son fils.
Sa grand-mère, le surnom de
son
ses parents, sa
son
grand-mère.
Mec.
Non.
C'est pas sa mère, son père.
Son frère.
Son père s'appelle Libellule, lui. et il l'envoie contre des
mais
poteaux.
C'est un surnom. C'est un surnom.
C'est, son mec.
C'est le surnom qu'elle donnait voilà, à ses parents, à sa grand-mère, à son
frère. Elle-même, elle s'appelait elle-même.
Exactement.
Ah, son petit nom. Bah oui, je suis bête. Là, c'était mon totem scout.
Voilà.
Voilà.
Totem Scout, très bien. Libellule Scout, ça vous a, ça aussi, c'est papa qui a voulu que vous soyez inscrite.
Alors
dans ce...
non, mais je tiens surtout à préciser, les scouts en Suisse n'ont rien à voir avec les scouts en France, parce que j'ai remarqué qu'en
malheureusement.
En France, c'est il y a un côté catholique,
institutionnel.
Il y a les deux.
Il y a aussi les scouts nazis, c'est laïque.
Alors en Suisse, c'est plutôt ça.
C'est des éclaireurs.
Ouais, non, c'est plus jeu de piste dans la nature, apprendre à construire des cabanes, tout ça.
Prendre le calendrier,
bisutage.
Ouais. Éviter les poteaux quand tu fais du ski.
Nous recevrons demain Arnaud Desplechin.
Oui.
En quoi a-t-il joué un rôle très important pour Hippolyte Girardot?
Il était dans ses documentaires.
Il était sorti ensemble.
Ils ont joué, oui.
Non, mais il lui a donné
un rôle
important. Ils ont commencé ensemble.
Il a fait art director pour un de ses films.
Non.
Vous étiez à l'école ensemble?
Non.
Copain de Beuvry?
Non.
Ils étaient amants.
Il lui a donné un scénario important.
Il lui a présenté.
Oui, non, il a donné des rôles.
Il lui a présenté sa femme.
Non.
Il a volé sa femme.
Non. Il a joué un rôle important pour Hippolyte Girardot dans sa carrière professionnelle.
Il a lancé. Une sorte d'agent. Lancé sa carrière.
Il a prêté de l'argent.
Il lui a pourri sa carrière.
Alors c'est lancé, c'est
il a confirmé
sa carrière.
Il a mis le pied à l'étrier.
C'est pas le premier rôle, non.
Non.
Il l'a présenté.
J'ai l'impression que j'ai le point.
J'ai l'impression que j'ai
le point là, Nagui.
C'est pas,
si tu m'aimais, tu me le donnerais.
C'est pas lancé, mets-moi un préfixe.
Poussé, il l'a poussé. Relancé.
Exactement.
Ah, relancé.
J'avais le préfixe. J'ai le préfixe.
Non, trop tard.
Je dirais.
En fait, c'est plus que ça, Hippolyte. Il vous a redonné le goût, le plaisir. Vous aviez une période de doute?
Non, mais c'est pas. Ce qui est très très bien et très marrant avec Arnaud, c'est que je le connais depuis l'époque d'Un Monde Sans Pitié, même avant un court-métrage dans lequel on avait le premier court-métrage que j'ai fait avec Eric Rochant. Lui, il était machiniste, il poussait la dolly. Et donc c'était assez, c'est pas un copain du tout, mais c'est quelqu'un que je connais depuis toujours. Et après avoir fait Un Monde Sans Pitié, etc., etc., un jour il m'a proposé de faire un rôle dans un film. Et c'était un rôle tout à fait étonnant auquel jamais j'aurais pensé pouvoir... Enfin, même dans mon idée, dans mon idéal d'acteur, jamais j'aurais imaginé pouvoir faire un truc comme ça. Donc je pensais que j'y arriverais jamais. Il m'a vraiment magnifiquement dirigé, poussé, amené quoi au rôle. Et ça a changé mon rapport au travail. Je me suis dit d'un seul coup, c'est assez marrant. Il y a des trucs à faire comme acteur. Quoi. Ça m'a donné envie... différemment de travailler le travail de l'acteur.
On sent quand on est acteur l'amour d'un réalisateur pour le jeu, justement, pour les comédiens. Est-ce que ça se sent tout de suite ceux qui aiment
les comédiens,
ceux qui ne font que les diriger et qui sont un peu autoritaires?
Non seulement on sent l'amour, parce que l'amour c'est facile, hein, mais c'est pas ça, on sent le... ce qui est plus fort, c'est qu'on sent le désir. Et ça, le désir, c'est quelque chose qui peut pas se cacher. C'est-à-dire que c'est très difficile de forcer le désir, n'est-ce pas? Et donc, quand il est là, c'est objectif. On sent ce désir et on est soi-même porté par la libido du metteur en scène. Ou de la metteur en scène, c'est pareil.
Que fait Noémie Schmidt pour fédérer son quartier de Montreuil?
Elle vend ses fringues.
La fête des voisins, moi je dis.
La fête des voisins, non. C'est pas, alors c'est
elle organise des barbecues, elle organise des bouffes.
Des concerts, des concerts.
Exactement. Ouais. Exactement. Des bouffes avec les. C'est même.
Il suffit, c'est
moi. Pas loin.
Ah ouais. Je suis déjà venu, mais j'étais déguisé en femme.
Ah, mais bien sûr.
C'est moi qui ai apporté la salade de riz.
En fait, vous faites la cuisine. Vous invitez les gens à venir manger chez vous, vous faites la cuisine et vous leur apportez la bouffe.
Dans le contexte politique de cet hiver, avec les gilets jaunes et tout ça, moi, ça me tenait à cœur, avec mes colocs aussi, avec l'homme que j'aime, de faire quelque chose de concret et pas juste en discuter, quoi. Et du coup, on s'est dit qu'on avait envie, voilà, de ramener du local dans nos vies et de pas appeler la régie de l'immobilier pour un problème de plomberie, mais plutôt d'appeler un voisin, par exemple, et de pouvoir faire du troc et tout ça. Donc, on a fait des pains d'épices et on les a filés aux voisins. Et en fait, c'était génial parce qu'au début, on s'est dit, bon, bah, ça prend pas. On est à Paris, il faut pas rêver, etc. Et en fait, au final, les gens ont été touchés de l'initiative, ils sont passés à la maison et du coup, on a une super ambiance de quartier.
Si vous voulez faire plaisir à Hippolyte Girardot, savez-vous où faut-il l'emmener en vacances? Il y a une
destination.
C'est plus qu'un pays, c'est une région qui trouve un écho particulier.
La Creuse.
C'est pas en France, non. Macao.
Alors, commençons par le pays, alors.
L'Antarctique.
Alors, donc, le pays.
L'Italie, la Sicile.
Italie, oui. Sardaigne pour toi.
Ah ouais, moi c'est pareil.
Les pouilles.
Italie, alors Papouille.
C'est une région.
Toscane. Exactement. Papouille. Vous êtes un amoureux de la Toscane pour sa nourriture?
Pour tout.
Ses vignes?
Non, absolument. Ouais. Pour tout. C'est un pays assez incroyable. D'abord au niveau de l'art de vivre, c'est vrai. Il y a quelque chose qui est très merveilleux, pour moi en tout cas, c'est que le paysage de la Toscane, c'est exactement le même que celui qu'on trouve dans les peintures du Quattrocento italien. Et c'est assez étonnant d'être dans la peinture. En fait, c'est assez particulier quand même. Par moments, on se retourne et on voit exactement le background de ce qu'il y a derrière le tableau de la Joconde. Là, c'est hallucinant. Pour moi, c'est complètement hallucinant. C'est exactement comme la première fois où je suis allé à New York et j'étais dans Taxi Driver. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'avais l'impression d'avoir été transporté.
Alors, c'est exactement
dans
ce que
le 3D
vous dire. C'est ce que j'allais vous dire. C'est le fait que vous soyez touché par la Toscane parce que vous avez le sentiment de rentrer dans une œuvre ou de rentrer dans un film, je le comprends, mais ça peut se reproduire partout dans le monde. Qu'est-ce qu'il y a de plus en Toscane? C'est l'art de vivre?
Ah non, c'est parce que la peinture, le paysage italien qui a été peint par les peintres italiens, et d'ailleurs souvent par des élèves du peintre lui-même qui peignait le portrait, c'est un travail extraordinaire de peinture. C'est vraiment quelque chose de fabuleux. C'est très, il n'y en a pas beaucoup.
Vous êtes déjà dit, je pourrais aller y vivre.
Oui, je me souviens d'une pub comme ça quand tu es en Italie. Il y avait marqué Toscane, un endroit merveilleux pour mourir. C'était exactement ça, quoi. C'est-à-dire que ils essayaient de vendre des résidences secondaires. Et voilà, ils essayaient de devenir un endroit merveilleux pour mourir. Je trouvais que ça, la pub était géniale.
Je crois qu'il a été viré, le mec, qui a trouvé le slogan.
On se souvient du slogan encore.
C'est vrai, je pourrais bien, oui, comme ça. En fait.
Mais je suis pas sûr que beaucoup de gens se disent, tiens, bah, je vais y aller, tiens. Puisque nous parlions des qualités de cuisinière de Noémie Schmidt, vous êtes...
On a parlé du pain d'épices, ça va.
Bah, il faut savoir le faire.
Tu l'as pas goûté.
Le sien, c'est autre chose. Enfin, j'en sais rien, j'ai pas goûté.
Alors,
il paraît que vous, c'est les pastas.
Non, pas toujours, mais oui, en fait, oui. J'ai trouvé, oui, c'est ça. C'est très difficile, les pastas, en fait. On croit que c'est...
Al dente.
Non, c'est compliqué. C'est la cuisson, c'est une chose. L'eau, faut qu'elle soit spéciale. Et après, la sauce, c'est particulier aussi. Donc vraiment, en fait, c'est beaucoup plus de travail que ce qu'on imagine, faire des bonnes pâtes. Voilà.
Mais ça a l'air de vous, ça a l'air de vous peser, en tout cas.
Non, mais c'est vrai que si je décide de le faire, ok, j'y pense, quoi. J'y pense. C'est pas genre, j'en fais comme
mais
ça.
Mais alors, vous les faites quoi? À la Norma?
Admettons que je les fasse tout à fait à l'Arabiata, alors un truc très simple. Mais c'est tout un travail de préparer les
tomates,
de les faire cuire, et combien de temps, et avec quels ingrédients, et trouver les tomates. Enfin, c'est très compliqué. En Italie, c'est beaucoup plus facile de le faire. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Vous êtes très tendu,
Oui. Parce que la cuisine, c'est pas seulement genre on s'amuse, quoi. Il faut le faire quand même d'une manière.
Mais il faut que ça reste un plaisir, arrêtez.
C'était la séquence détente.
Faut que le résultat soit là, faut que les gens commencent à manger, oh ça y est, il tombe en pamoison, c'est ça qu'il faut, quoi.
Le seul conseil que l'on puisse donner à une personne vivante, ne soyez pas à côté d'Hippolyte Girardot quand il cuisine, parce qu'à mon avis...
Ça c'est un peu vrai. Et même la cuisine ne devrait pas être là.
Ok, d'accord.
Comment elle s'en sort.
Okay, très bien. Et pourtant, c'est pas lui le fou dans l'intérieur bien que qui est fou, voilà. Qui est fou, qui ne l'est pas.
C'est pas lui, quoi.
Non, du tout, du tout.
Ah mais a priori, vous n'êtes pas fou.
A priori, vous êtes
le patron de la clinique psychiatrique.
Je suis le patron de la clinique.
Exactement. C'est un thriller, c'est-à-dire qu'on a vraiment dans votre jeu, et je vous ai trouvé, mais alors déjà je vous admire, mais le jeu dans cette série là non, parce qu'il y a le film, il y avait l'étudiante, on en avait parlé ici, ouais, Versailles, mais voilà, vous êtes d'une justesse, d'un jeu, vous faites peur au moment où il faut, on a envie de non mais c'est vrai, quand vous avez peur, on a peur. Je sais pas si ça a été le sentiment de tout le monde en voyant cette série, mais quand il y a ces apparitions, ces visions, cette acouphène qui arrive et que vous revoyez les images de celle qui a été assassinée en tout début de la semaine dernière. Lundi
26,
tout le monde l'a vu. Ça.
Tout le monde l'a vu.
On a l'heure du décès au moins.
Et puis on peut s'identifier parce que c'est votre première enquête, votre personnage, c'est sa première enquête. Donc vous êtes vraiment une bleue. Vous cherchez à comment vous en sortir de cette situation, de trouver des indices, poser des questions. Donc on peut aussi s'identifier à cette première fois.
Ouais, l'idée c'était vraiment d'être en empathie avec le personnage qui a pas les épaules et qu'on charge de cette enquête. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que elle est à fond en empathie avec les fous plutôt qu'avec les gens normaux, soi-disant. Les normopathes. Et elle est vraiment fascinée par ce milieu psychiatrique.
Elle doit se battre à la fois d'un côté sur une enquête avec ceux qui disent la vérité, qui mentent, et ceux qui l'aident ou qui ne l'aident pas. Y compris, elle doit décrypter la manière dont les patients s'expriment, parce qu'ils ont chacun leur code en fonction de leur maladie ou de leurs problèmes. Et puis, de côté de police, c'est pas simple non plus. Elle a pas des partenaires qui l'aident extraordinairement.
Beaucoup de soutien.
Béatrice Dalle est d'une violence.
Elle a une chef incroyable, comme Béatrice Dalle. Ça, c'est un super rôle pour Béatrice Dalle. On l'avait jamais vue comme ça.
Ouais.
Et en même temps, elle n'est pas si terrible que ça avec vous.
Elle a adoré faire une chef des flics, quoi. C'était vraiment.
Là, tu divulgages un tout petit peu.
Non,
quand
je dis qu'elle n'est pas toujours si méchante que ça.
Bah, il faut attendre quelques épisodes pour y arriver.
Ouais. Non, dès le début.
Elle lui fait confiance. Elle fait confiance.
Elle lui confie, ouais. Mais après, elle est un peu tendue.
Et en plus, la jeune lieutenant, elle est en plus en identification avec la personne qui est morte. Ça fait beaucoup d'axes, beaucoup de trucs.
Elles ont la même date de naissance.
Voilà, donc elles se ressemblent physiquement.
Elles dorment avec le même t-shirt.
Exactement, il y a plein de détails troublants. Ouais.
Ça fout déjà la trouille.
Ne regardez pas, vous aurez peur.
Est-ce que c'est vrai qu'au début, dans la distribution des rôles, Béatrice Dalle devait jouer le rôle d'une patiente?
Bah, c'est-à-dire que Béatrice Dalle, on connaît son caractère, son penchant pour l'excentricité, pour le moins, et donc effectivement, c'était une sorte d'évidence. Et elle a dit, moi ça m'intéresse pas, par contre, j'aimerais bien faire la commissaire. Quoi.
Une Condé.
Voilà, j'ai jamais fait, et vu mon passif avec la police, je trouvais ça bien.
C'est clair.
Et effectivement, c'était une excellente idée. Quoi. Moi,
avec Judith Zen, qui est parfaite aussi, vous formez le...
En général, elle est parfaite.
Et c'est
réalisé.
C'est
une actrice.
C'est une très bonne comédienne.
Ouais. Et c'est réalisé par Vincent Lanoux.
Et scénariste aussi, Judith. Hein,
Pas trop de talent non plus, on va se calmer.
Vous constituez d'ailleurs ce couple qui dirigeait une clinique. Et alors, vous la dirigez un peu comme une boîte, quoi. Il faut que ça tourne, il faut faire du chiffre, il faut que les lits soient occupés.
Bah oui, c'est un peu le principe des cliniques quand même. C'est-à-dire que c'est pour
le
bien. C'est pour le bien public, mais en même temps, c'est quand même une affaire, quoi. C'est un business, quoi, qu'on le veuille ou non, oui.
Il y a un conflit en plus entre ta manière de faire et la manière de Judith.
Oui, en plus, bien sûr, on n'est pas d'accord sur le management. Ouais.
Justement, tiens, à propos de management, Yannick François est pédopsychiatre et psychiatre, on le recevra tout à l'heure. Il a été consultant pour la série. Est-ce que vous vous êtes intéressé particulièrement au-delà du texte et des mots très appropriés au travail, à l'ambiance dans les cliniques est-ce qu'il y a eu un travail, une immersion faite ou pas?
Non. Je connais un peu les psys et je connais un peu les cliniques, mais non, je crois pas. C'est-à-dire que ce que je crois, c'est que quand on fait...
Dit comme ça, ça fait peur, ça fait voler du
ouais, c'est exactement ça. Et donc, non, ce que je crois, c'est que quand on fait une série, quand on fait un scénario, comment dire, le master, c'est vraiment le scénario. C'est-à-dire qu'il faut bien regarder le scénario pour voir qu'est-ce qu'on peut faire dedans. C'est ça qui est important. Or, dans cette histoire, qui est ce qu'on appelle un huis clos, quoi, la Agatha Christie, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de penser que tout le monde peut plus ou moins se retrouver accusé, voire être coupable. Et donc, ça, c'est ce qu'il faut maintenir absolument vivant pendant toute l'interprétation, bien au-delà de la véracité ou de la crédibilité, ok, mais pas la véracité, évidemment, d'un psy ou d'un autre. Quoi. Ça, faut pas penser à ça, parce que je pense que là, on est sur vraiment une fausse piste.
Et justement, à propos de pistes, il y en a plusieurs des pistes. Vous faites même un tableau avec toutes les possibilités, Noémie, dans la série. Et chaque épisode est anglais ou axé sur l'un des personnages, l'un des patients. Ils ont à chacun un moment où ils sont plus mis en lumière, j'ai envie de dire que
à chaque moment,
c'est très choral.
Tous les patients pourraient être coupables à un moment donné, mais même les psychiatres en fait, ou même les infirmiers, ou même tout le monde est potentiellement coupable. C'est ça qui est.
Oui, tout le monde est potentiellement fou, puisqu'on ne sait pas où s'arrête la folie ou commence la normalité.
Et c'est la grande question de la série justement. Et même la policière, à un moment donné, on se demande si je perds pas un peu
le
fil.
La boule, ouais.
Oui. Non, je me suis un petit moment de silence, un petit moment de
silence. On n'a pas dit, donc c'est réalisé par Vincent Lanoux qui apparaît dans la série.
Tout à fait.
Voilà, c'est lui.
Il joue Dédé la télé.
C'est absolument celui qui est toujours avec sa télécommande et qui la planque. Voilà.
Ah, c'est lui.
C'est le réalisateur.
Alors, je vais faire un big up à un pote. J'ai cru que c'était Fred Sorel, qui est un comédien qui physiquement.
Vincent Lanoux.
Fred Sorel. Ah oui, ok, d'accord. C'est un caméo alors. Donc c'est drôle qu'il soit à la télécommande pour un réalisateur. Voici l'heure de François avec ses vérités à nous révéler. Je crains le pire. Salut Nagui.
Bonjour. Je vous le dis en toute confidence. Aujourd'hui, je vous trouve encore plus beau qu'hier. Vous êtes gaulé comme un sapeur-pompier. Mais soyons sérieux. Les apparences sont trompeuses et, comme vous le savez, cette saison, je viens pour faire des révélations qui dérangent, pour montrer le dessous des cartes, la face cachée de la lune. Tout comme vous, Nagui, j'ai vu avec quelques difficultés techniques sur mon Minitel, à l'intérieur, où j'ai kiffé le jeu de Noémie Schmidt et Hippolyte Girardot. Salut Nono! Salut Hippo! Moi aussi, j'ai frissonné. J'ai tremblé. Et si je ne venais pas de me faire mon épilation intégrale mensuelle, tous mes poils se seraient dressés, hérissés. Ce suspense, ça m'a rappelé quand je jouais au Cluedo avec mes amis, cherchant à savoir si c'était bien le professeur Violet qui, avec le tisonnier ou la grosse matraque, avait sodomisé à mort le colonel Moutard.
Non, c'est pas
ça. Si, j'y ai joué. Et vous aussi. Et là, j'ai repris mes esprits. 3 pastis, 5 Xanax, et j'ai analysé. Décrypté, désossé, cette bande de dingos schizo-bipolaros de cette clinique. Alors, j'ai tout compris. Ce rassemblement a été inspiré par une bande autrement plus flippante. La bande originale qui compte ce matin. Un tueur ventriloque ébouriffé, là-bas. Quoi ? Un nécrophile barbu trafiquant d'organes. Un psychopathe vegan et breton qui va venir. Une nymphomane agro-poppers. Sans parler du taulier.
Pour les autres, on ne savait pas qui était qui, mais là, on a trouvé.
Là, on a compris. Sans parler du taulier, cynique et cynoc, de cette nef de fou radiophonique. Mais qui a suggéré au réalisateur de « À l'intérieur » de s'inspirer de la bande originale ? Pas besoin de chercher loin. C'est toi, Hippo, qui travaille aussi à France Inter, dans l'émission Par Jupiter, dans le bureau juste à côté du nôtre. Tu nous as observés. Si j'en avais eu le temps, je vous aurais révélé l'addiction secrète de Noémie Schmidt à la raclette du Valais. Ouais. Mais je dois y aller. J'ai d'autres dossiers. Puis sa cicatrice aussi, je sais d'où elle vient. J'ai d'autres dossiers à préparer, tout aussi compromettants. Salut!
Oui, merci à Bernie.
Take my hand and come with me. me because you look so fine that I really want to make you mine.
Do you wanna be my girl? Ça ouvre, ça envoie.
Dans la voiture.
Ouais,
et
c'est
la Twingo.
C'est fort parce
dans
que.
Clio.
Parce que juste après la scène de, la première scène de crime, d'angoisse, on a cette musique qui démarre et on se dit, waouh, c'est le chaud et le froid, c'est le froid du cadavre, le chaud de la musique, et on est dans la voiture avec cette musique et très pop, très rock. Ce réalisateur justement qui est présent, j'ai le sentiment qu'il y a eu un travail très technique aussi dans la manière de réaliser de ses objectifs, d'avoir des plans faits avec un grand angle, par exemple, où on a l'impression que c'est vous, Noémie, qui regardez des personnes autour d'une table d'une manière presque déformée, parce que vous ne savez même plus si vous avez raison ou pas d'être présente à table à ce moment-là. Le plan sur vous, lui, il est tout à fait normal. Tout ce travail-là, cette technique-là, vous l'avez ressenti lors du tournage. Il vous explique, le réalisateur, comment il change ses objectifs, ses valeurs de plan,
ses
travelling compensés, tout ça.
Ouais, c'est le truc qui m'a fait le plus kiffer dans le tournage, en fait. C'était que il y avait une inventivité tout le temps des plans, il y avait une vraie recherche, et il y avait en plus une disponibilité assez rapide de bon, on va faire un truc comme ça, et ok, il y a les moyens, on y va et on le fait, et ça se faisait assez rapidement et dans un truc de spontanéité. Assez fou en fait.
Ouais, puis il y a un travail du cadre et de la photo aussi qui est assez intéressant. Vous parlez tout à l'heure des toiles ou des tableaux. Il prend des angles. Je pense notamment à la cage escalier qui est prise en verticale. Ouais. Elle est.
Ce qui est très très bien dans son travail à Vincent et son chef opérateur, dont j'ai oublié le
prénom. Vincent Vengel.
Vincent, voilà, lui, c'est, Vincent. Ce qui est très très bien, c'est comme ils sont dans un huis clos, une seule baraque, en fait, des pièces, des couloirs, c'est pas tellement riche, en fait, au niveau esthétique.
On a tourné une semaine dans un seul couloir, par exemple.
Voilà. Il est vraiment obligé de renouveler la façon de filmer ça. Et ça, c'était très intéressant parce que eux avaient un problème, quand même, qui était assez complexe, je trouve, à rendre extrêmement vivant tous ces plans assez classiques, finalement, d'enquête. Et ils sont très très bien débrouillés.
Et il y avait ce truc de perte psychotique. Ils avaient envie qu'on se perde, nous, en tant que spectateurs aussi, dans les méandres, la psyché de chaque personnage. Psyché ou psyché?
Psyché. Et donc, vous avez vécu dans une forme d'isolement aussi, en étant toujours contraint sur ce lieu de tournage, ensemble. Ah, Hippolyte, un peu moins dans l'isolement.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que tous les soirs, on rentrait à l'hôtel, on n'était pas enfermés dans cet endroit.
Non, mais bien sûr.
Mais c'est vrai que moi, j'ai passé 3 mois.
Certains auraient mérité.
Ah oui. 3 mois entiers à Angoulême pour tourner ça.
Oh, la punition.
Seul. C'était génial.
Une semaine dans un couloir, t'imagines?
Non, mais du coup, je me suis vachement intéressée à la technique et à tout ça, parce que tous les soirs, on se retrouvait et on parlait du lendemain. Et du coup, ils m'ont vachement intégrée aux décisions et aux problématiques. Parfois même un peu trop, je me disais, oula, faut que j'arrête de m'intéresser aux problèmes.
Vous avez été, impressionné ou pas quand on vous a dit que vous auriez le rôle principal, même si tous les rôles sont extrêmement importants et on peut pas forcément dire. Mais enfin, vous êtes pratiquement de tous les plans et vous le portez bien d'ailleurs. Mais c'était déstabilisant, c'était au contraire.
Non, j'étais surtout hyper passionnée. J'étais à fond dedans et c'est ça que je préfère quand je tourne, d'être vraiment à 100%. Du coup, non, je peux pas dire que j'étais vraiment. Oui, j'étais impressionnée par tous les gens autour de moi. En fait, ce qui était génial aussi, c'est que comme j'étais quasiment là tout le temps, j'ai pu voir tous les acteurs travailler. Je les avais chacun dans une scène ou deux. Et donc, j'ai pu les observer. Et ça, c'est vrai que c'est passionnant quand t'es un jeune acteur de pouvoir regarder d'autres acteurs, en plus faire des performances de fou, donc proposer des choses,
Ouais, ça joue bien.
C'est régulière, quoi.
Ça s'appelle À l'intérieur, c'est sur France 2, tous les lundis. Ça a déjà commencé la semaine dernière, pour ceux qui ne savent pas. Ouais. C'est 2 épisodes par soir, et donc les deux prochains seront lundi qui arrive.
C'est sûr?
Ouais, je crois. Je crois que c'est même lundi 2, c'est pour te dire. Voici Jérémy Crédville.
C'est moi. Salut à tous. Bon alors c'était bien les vacances?
Ouais.
Super, et toi?
C'est super. Pareil. La saison dernière, j'intervenais le lundi dans l'émission et puis il y a 10 jours, je reçois un coup de fil de France Inter.
Je
me rends compte qu'il y a un téléphone qui vibre à la radio, c'est complètement
con. Super bien le téléphone vibrant.
Ouais, mais pour les auditeurs qui nous écoutent, ils se disent, c'est la régie qui le lance, donc c'est quand même con. Mais bon.
Non, c'est toi qui refais-le, vas-y, sonne encore.
Le don de soi.
Refais-le pour moi.
Ça va être compliqué. Bref.
Décroche maintenant.
Vas-y, décroche.
Allô? Écoute, maman est près de toi. Il faut lui dire maman.
Bref. Il tombe sur mon répondeur, sur lequel j'avais mis Claude François. Oui, c'est ringard, mais personne ne m'appelle à part des gens qui veulent me vendre des fenêtres. Et puis, mon ancien répondeur, c'était pire. Ça faisait, je ne peux pas répondre pour le moment, pour le moment. Je ne peux pas répondre pour le moment. Alors laissez-moi un message après le bip. Vous voyez, bon là, on était... Ouais, au sommet de la ringardise, ouais. Tel Daniel top, Morin avec les chaussures de Mickey.
J'adore.
Alors, puisqu'ils n'ont pas laissé de message, je décide de les rappeler. Alors, ouais, bon, j'ai mieux le vibreur que la sonnerie. Ah,
voilà, c'est refais le vibreur.
Bref, je les rappelle. France Inter, Muriel, bonjour, j'écoute. Bonjour, madame, c'est Jérémy Crédeville. C'est pour une réclamation, monsieur ? Non, vous avez essayé de m'appeler. Et vous êtes monsieur Crédeville. Oh, c'était sans doute une erreur. Non, non. Écoutez, madame, j'étais chroniqueur l'année dernière dans l'émission de Nagui le lundi. Un instant, monsieur. Layola. Layola, Layola, t'es encore là toi? Putain, tu pars jamais en vacances, hein? Oui. Bah, pose ce cubi de rosé et arrête de pleurer Michel Legrand, ça va pas le faire revenir. Grégory Pied de Vigne, ça te dit quelque chose? Non? Il bossait vous? D'accord, pas vraiment. Ok, bon, on l'appelait pourquoi? Ah, ok. Allô Dimitri?
Oui.
Merci d'avoir patienté. Il n'y avait pas de musique d'attente. Oui, bah, vous savez pas tout faire à la bouche. Bref. On voulait vous dire, il y a quelqu'un à votre place lundi, il nous reste que le jeudi de dispo. Vous êtes disponible le jeudi?
Oui.
Ah merde! Et boum! Elle raccroche. Et oui. Une heure après, je reçois un texto d'Albert Algou qui me dit. Il a toujours été nul en texto, Albert. Il voit rien, il a des gros doigts.
C'est tout à fait ça.
Oui. Après une saison et demie passée aux côtés d'Albert Algou, je sais lire l'Algou. Et donc, ça veut dire chante plus durant tes chroniques. Et c'est vrai que chanter, ça met de l'ambiance. Si tu dis des choses tristes sur un air de jazz, ça passe mieux. Regarde. L'Amazonie brûle des gens et des animaux avec. Attention les vieux, une nouvelle réforme des retraites. Vous voyez, le jazz. Chanter, c'est formidable. Chanter, par exemple, Florent Pagny, chanter pour oublier ses peines. Florent P, un acteur voulant garder l'anonymat et se lançant dans le porno gay, chanter, lui, pour oublier ses peines. La chanson, c'est magique. Ça répare des petits handicaps. Et oui, quand il chante, les bègues ne bégayent plus. Ça répare même de très gros handicaps. Quand il chante, les Québécois perdent leur accent. Vous voyez, chanter, c'est d'avoir la garantie d'être en bonne santé. Whitney Houston, quand elle chantait, elle ne pouvait pas se droguer. Quoique.
Salaud.
Oui, bon, elle avait le temps. Pas besoin d'avoir une voix aussi pour chanter. Vous voyez, Renaud, il n'est pas soprano. Vincent Delerme, il n'est pas soprano. Soprano, il n'est pas soprano. Et je suis en train de me dire que, n'empêche, en me faisant chanter dans la bande originale, Nagui exporte son karaoké télé à la radio. Il va me faire payer les droits, j'en suis sûr. Je pensais pas dire ça un jour, mais contrairement à ce que disent tous les autres chroniqueurs de la bande, il n'est pas si con que ça, Nagui.
Merci, Jérémy Crédeville.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Bah, c'était très bien, figure-toi, pour un jeudi.
Moi, j'adore quand tu chantes.
La bande originale. Alors, la bande originale, oui, d'à l'intérieur. Ça, c'est ce qu'écoute, évidemment, l'enquêtrice, Noémie Schmidt, quand elle est dans sa voiture avec sa porte blanche.
Ah, voilà, moi, j'ai une question, parce que elle a choisi.
Pourquoi la porte blanche?
Exactement. Puisqu'elle a choisi de mettre en lumière cette cicatrice, pourquoi cette porte blanche finalement, Noémie Schmidt?
Parce que tu vois un lien entre la cicatrice blanche et la porte blanche.
Ah bah, bah, voilà,
comme quoi, tu vois, tous ces sujets d'interprétation. Bah non, mais en fait, il voulait une voiture un peu singulière, justement, pour parler d'un personnage singulier. Donc elle n'a pas une voiture de flic conventionnelle. Elle a d'ailleurs, quand elle se gare, elle prend le poteau à chaque fois.
Ah bah, c'est pas se garer, oui, ça s'appelle ça.
C'est parce qu'elle écoute du rock.
Elle écoute du rock, mais elle est sensible au cello. C'est vrai qu'on peut pas rester insensible à cette musique. On va continuer de parler de musique et de la musique dans vos vies, celle que vous écoutiez, Noémie Schmidt, dans le début des années 90.
Je suis un chômage.
Ah oui, ça explique tout.
Et vous voulez ce moment précis de la chanson?
Non mais attends, il faut écouter un peu.
Ah, il faut écouter, pardon.
Elle m'a dit me taire.
Qu'est-ce qu'est l'homme sans les bêtes?
Si toutes les bêtes disparaissaient, l'homme mourrait d'une grande solitude de l'esprit.
Êtes-vous végétarienne?
Non, j'ai été végétarienne pendant un moment, mais non, mais en fait, je me suis attachée au contexte parce que du coup, je me suis dit qu'est-ce que j'écoutais quand je suis née, mais je m'en souviens pas. Donc, je me suis attachée au contexte dans lequel je suis née, donc la nature et
le respect de la nature et des animaux.
Et voilà, et cette chanson, enfin ce titre, c'est un titre d'un groupe de français psychédélique qui s'appelle Cheval Fou. Et ça s'appelle « La fin de la vie, le début de la survivance ». Et ça me faisait marrer parce qu'en fait, moi, je suis née dans un monde où on nous a déjà dit « Voilà, c'est terminé, de toute façon, tout va se casser la gueule, c'est la fin d'un monde. »
La fin de l'humanité, en tout cas.
Voilà. Ouais. Et c'est une chanson qui dure 13 minutes, c'est vraiment
magnifique.
Et voilà, je vous recommande. Et en fait, c'est le texte, c'est un...
J'ai envie parce que le texte a l'air...
C'est magnifique. Et en plus, c'est un enfant qui parle, je trouve ça trop beau. Et c'est un discours qu'a prononcé un chef indien dans les années 1850 devant des gouverneurs américains, et donc c'est un pamphlet pour la nature et pour l'idée qu'on est tous liés les uns aux autres par une force de vie qui est plus...
Mais ça renvoie au discours non pas indien maintenant, mais plutôt...
Au discours écologique
De Greta Thunberg, c'est une enfant qui le formule, ou une ado.
Qui est un discours millénaire en fait, qui est celui que j'ai toujours, auquel j'ai toujours cru et auquel je crois.
Et qui vous touche.
Et c'est ça ma religion aussi, c'est la nature, la vie, et le fait que si il dit à un moment donné, l'eau qui coule dans les rivières, c'est pas seulement de l'eau, c'est aussi le sang de nos ancêtres, et il faut avoir la même tendresse pour les rivières que pour nos frères.
Finalement, ça fait beaucoup de mal, hein, cette chute contre le poteau. Hein.
Peut-être que c'est l'empreinte au scout aussi. C'est fort.
Et sans indiscrétion, pourquoi vous n'êtes plus végétarienne, Noémie?
J'ai fait un voyage aux États-Unis quand j'avais 18 ans, et les gens m'ont hébergée, m'ont nourrie pendant 9 mois. J'ai fait un peu du stop et tout ça. Et du coup, j'ai eu du mal à dire non à ce qu'on m'a proposé comme nourriture. Et quand j'ai remangé un steak quand j'avais 19 ans, après 10 ans de renoncement, j'ai compris que c'était quand même bon pour mon corps. Après, j'essaye de manger de la viande qui a été respectée, qui a été, et qui a été bien nourrie. Mais c'est pas facile dans le contexte industriel dans lequel on vit.
Et alors, vous dites que vous avez
dit ma gueule. Je te respecte beaucoup, viens ici, viens.
Je suis pas contre le fait qu'on mange de la viande, je suis contre le fait qu'on torture des animaux.
On est d'accord. Mais il y a des agriculteurs qui font très bien leur travail.
Exactement.
Et qui respectent en effet les animaux. Ouais. Et puis, il faut plutôt se battre contre l'élevage industriel.
Exactement.
Où là, tous les animaux sont en cage, ne voient jamais la couleur du ciel ou la couleur de l'herbe, et où ils sont extraordinairement maltraités.
Martyrisés.
D'accord.
Voir la couleur du voisin de leur voisin.
Oui, ils sont tellement collés les uns aux autres qu'ils ne peuvent même plus bouger. Quant à vous, Hippolyte Girardot, dans ces années 90, vous écoutiez...
Ah oui, mais on a coupé.
Mais on savait pas à cette époque.
C'est pas ça, c'est... Voilà. Il y a un début à cette chanson qui est dément, il y a un gosse qui écoute de la musique... Son père dit arrête, éteins ça. Et à ce moment-là, il branche, je sais pas, 1000 mégawatts. Et il y a ce dingue là, le mec qui faisait de la guitare
Eddie
chez Guns N' Roses.
Et c'est pas Eddie Van Halen?
Non, c'est l'autre avec le chapeau là.
Slash.
Slash, qui fait une intro, voilà, qu'on entend, le riff incroyable. Et après, l'intro commence. Et j'écoutais ça presque non-stop, juste le début. J'avais un truc à cassette dans ma bagnole, je revenais en arrière comme ça, et c'était comme une drogue, quoi. C'est addictif complètement ce
morceau de Michael Jackson.
Ouais. Non pas le morceau en entier après,
pardon,
j'en fous, mais le début.
Le début, c'est le riff du début.
Il n'y a
pas que la cuisine qui l'énerve, la musique aussi.
Et 90, Hippolyte Girardot, c'est aussi votre naissance d'une certaine façon, c'est la naissance du personnage d'Hippo dans Un monde sans pitié d'Éric Rochant.
Ça a dû m'énerver.
Ouais, c'est ça qui vous a agacé. Et vous dites, en fait, c'est un film sur une forme de dilettantisme, et vous-même, vous étiez à une période de votre vie, vous attendiez un peu, mais vous attendez.
Je sais pas si
vous
moi j'étais aussi dilettante que ça.
Ouais.
Non, c'était parce que c'était en même temps le moment où ma fille est née. Ma fille aînée, Anna.
Ma fille Anna est née
en 88.
Anna que nous recevrons la semaine prochaine avec François Civil pour 2 mois.
Ah oui, c'est vrai, 2 mois. Et donc 2 mois, enfin. J'étais pas tellement dilettante, j'étais plutôt en train d'essayer de tenir quoi, ouais, comme
vous
acteur.
Vous étiez dans l'attente, ouais, dans une
mais plutôt dans l'attente parce qu'en fait je m'ennuyais un peu par rapport au rôle que j'avais à faire. Et c'était ma fille après qui était dans une petite tente que j'avais construite dans la chambre, 2 mois après qu'elle soit née.
Mais là je suis vraiment à l'intérieur.
Voilà, maintenant je suis devenu à l'intérieur complètement.
En 2008, Noémie Schmitt, vous chantiez. Alors là, c'est pas vous qui chantez.
Non.
Mais à ce moment-là, vous étiez chanteuse lyrique et c'est Philippe Glass qui vous touchait.
C'est, bon, de nouveau, j'avoue que je me suis attachée à pourquoi on était là, et avec Hippolyte, et pourquoi on parle aujourd'hui à la radio. Et du coup, je me suis dit qu'on était pour à l'intérieur et pour les fous. Et donc, je trouve que cette chanson, elle raconte un peu ce qui peut se passer dans la tête d'un fou qui entend des voix et en feu.
Qu'est-ce qui peut se passer dans la tête des... Et ça, c'est, non, cette, musique, non, cette musique-là évoque la musique que peut mettre un réalisateur. Pour oui. faire penser à ce qui se passe dans tête d'un fou. Mais on ne sait pas ce qui se passe. Dans
non,
tête.
On ne sait pas, mais voilà, ça m'évoquait ça. En tout cas, il y a des voix. Et alors, c'est vrai que j'ai fait du chant lyrique, classique, d'opéra, tout ça. Mais maintenant, ça m'intéresse plus d'utiliser ça pour des productions plus contemporaines et moins lyriques, justement, classiques au sens du terme. Parce que j'ai eu une éducation musicale très classique. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est un peu plus de péter les codes. Et, voilà. Et du coup, Philippe Glass m'intéresse beaucoup parce que c'est l'auteur.
Mélange.
C'est l'auteur d'opéra contemporain le plus joué. Dans le monde, et il a fait aussi des musiques de films, notamment un film incroyable qui s'appelle Koyaanis Katsi, qui parle aussi justement de... je l'ai même regardé, qui parle aussi de la fin d'un monde. Il y a un plan incroyable avec une fusée qui tombe, qui prend feu, et voilà,
cette chute
un film.
À 4 ans, c'est une catastrophe. c'est une catastrophe.
Non, mais c'est un pamphlet aussi, pareil, sur la vie et qu'est-ce que c'est que le monde dans lequel on vit et comment les humains connectent les uns avec les autres. Et ce film est vraiment splendide.
Et vous chantez encore, vous chantez toujours, vous avez envie de chanter sur scène là.
Ouais, le chant pour moi c'est justement un truc assez mystique. C'est le fait de chanter ensemble. C'est le fait de chanter dans des églises, par exemple, alors que je suis pas croyante dans une religion institutionnelle, mais le fait de chanter, ça me rapproche du ciel, quoi. Je trouve ça trop beau. Et
si vous n'êtes pas croyante dans une religion institutionnelle, vous êtes croyante en quoi ?
Ben, en la nature. En la nature et en la vie.
Est-ce que vous êtes... Le chant est mystique et il est physique aussi. Vous ressentez quelque chose physiquement quand vous chantez ?
Oui, ouais, je ressens vraiment, et en plus dans l'harmonie, il y a quelque chose quand on chante à plusieurs et qu'on arrive à émettre un seul son qui est rond, et bah comme dans cette musique, c'est magique. Bah, quand j'entends ça, j'ai l'impression d'être vraiment dans un autre espace-temps.
Hippolyte Girardot, vous écoutiez vous écoutiez.
On a préparé l'émission.
Vous écoutiez en 2008.
Ah bah alors que moi, oui, évidemment, c'est autre
chose. Mais juste l'intro.
Et non, c'est après, et 4 mesures après, puis après c'est terminé, je déteste, j'ai coupé.
Dylan.
Ouais, c'est Dylan, c'est un petit album comme ça qu'il a fait fatiguer, et puis avec un accordéon à la mexicaine derrière. Et bon, il y a une photo de Robert Frank, un couple qui s'aime et qui font l'amour comme ça dans une voiture en Amérique. Et c'est tout à fait merveilleux, je trouve, à son âge, quand il a fait ce truc-là, d'imaginer ça, de penser à ça avec on imagine l'accordéon derrière. Moi, ça m'a fait complètement rêver, quoi. Voilà, ça m'a fait complètement partir. C'était le moment d'ailleurs où je suis complètement parti.
Et dans cette période,
je sais pas si je suis revenu encore derrière.
Dans cette période, on vous retrouve avec à l'affiche d'un film de Pascal Ferrand, d'un film d'Arnaud Desplechin, d'Amos Gitaille aussi. Et quand je repense au film d'Arnaud Desplechin, Un conte de Noël, je vous revois mettre un pain monumental à Mathieu Amalric dans la cuisine.
Ça, c'était drôle.
C'est hyper drôle, on en reparlera sans doute demain avec un des Desplechin.
Ah oui, nous recevrons.
Ce qui était très drôle, c'est que j'avais très mal lu le scénario et je pensais que c'était...
C'était pas à ce moment-là.
Non, c'est pas ça, je pensais que c'était Mathieu qui me tapait dessus, quoi. Ouais. Et je lis le truc et à ce moment-là, il y a Arnaud qui dit, bon, à ce moment-là, tu précipites, donc on va se mettre comme ça. Voilà, puis Mathieu, tu vas te précipiter sur lui, tu vas lui... Comment ça ? J'étais complètement surpris de devoir taper Mathieu, quoi. J'étais pas du tout au parfum. Et donc, cette scène est très vivante, pour le coup. Ouais, elle est formidable.
Elle est très drôle.
Après, Mathieu s'accroche à mes basques, etc. J'ai dit, lâche-moi. C'était super. J'ai adoré cette scène de bagarre.
En 2012, Noémie Schmidt, vous écoutiez...
Bon silence. Ready when you are. Bon silence. Silence.
Jamais mes gamins ne feront de ski.
Ou alors avec un casque.
Philippe, tu es prêt ? Tu es prêt ?
C'est Philippe Lyotard.
Moteur. Moteur demandé. Ça tourne ? Cadré ? Oui, monsieur.
Action.
Ça tourne.
Quelle image vous avez de Philippe Léotard ? Parce que c'était un bonhomme d'une sensibilité incroyable.
Ouais, c'est ça qui me reste. Et c'est ça que je ressens quand je le vois, c'est vraiment cet abîme, ouais. Ce truc écorché. J'ai des idées de gestes sans maladresse. Et ça, c'est une chanson qui s'appelle Cinéma, et c'est Philippe Léotard qui fait une poésie sur le cinéma et sur le fait d'être acteur. Et c'est, je trouve, une métaphore vraiment magnifique.
C'est quoi être acteur pour vous?
Ben justement, actrice. On parlait de l'amour tout à l'heure, qu'il peut y avoir. Ben lui, il en parle, il parle de l'amour d'un réalisateur pour un acteur, et ensuite du vide qu'il y a après le tournage, par exemple, et du fait qu'il revient 3 mois après avec un film qui est comme un enfant. Il parle d'accouchement, en fait, et que c'est des mensonges, tout ce qu'on lui a dit, des « je t'aime », etc., c'est que des mensonges, et que ça reste une dynamique... d'un producteur et d'un réalisateur qui veulent accoucher et qui utilisent l'acteur et son qui à un moment donné il dit je entre dans la lumière j'ai besoin de l'étreinte de votre étreinte pour faire respirer cet enfant par mes pores. C'est comme un sacrifice.
Mais est-ce que pour vous, Noémie, comme Hippolyte, être acteur, c'est jouer, c'est porter des émotions, un rôle, rentrer dans la vie d'un personnage, c'est comprendre les personnages que l'on interprète, ouais. Qu'ils soient d'ailleurs odieux, qu'ils soient gentils, méchants.
Oui, et c'est donner quelque chose, surtout c'est donner et c'est laisser aussi quelque chose qui nous échappe, et c'est d'être vraiment dans un don, dans une non-maîtrise, dans un... de nouveau, il y a quelque chose.
C'est un jeu
de...
ou une analyse?
Ben, il y a les deux. Il y a aussi un truc intellectuel, c'est sûr, mais il y a quelque chose qui dépasse l'intellect.
Je crois que c'est riche comme question, et les réponses le sont encore davantage. C'est-à-dire qu'on peut être acteur de façon très très différente, vraiment, et soi-même mettre sa vie dans la balance d'une manière plus ou moins profonde, plus ou moins puissante. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est difficile de définir. C'est pour ça qu'il y a toujours des livres sur les acteurs, sur comment on fait du cinéma, comment on interprète des rôles, parce que c'est totalement infini. Et par rapport à ça, je dois dire que c'est vrai que ça dépend énormément du cinéma dans lequel on vit, dans lequel on travaille. Donc le cinéma dépend énormément des circonstances économiques et politiques du pays dans lequel on est. C'est-à-dire que je pense qu'on peut pas être le même acteur, pas travailler même la matière acteur, si on est français, si on est américain, si on est anglais, ça n'est pas la même chose, profondément, parce qu'il y a quelque chose d'historique dans l'idée même d'incarner un personnage.
C'est pour ça qu'il faut défendre la particularité du cinéma français.
Oui, je pense que vraiment, ouais. Il faut la défendre.
Et là, ce qui est touchant, je trouve, chez Léotard, c'est sa sincérité aussi, c'est sa manière d'être acteur, c'est son don, et c'est justement ça, tu me parlais de sa sensibilité, pour moi, c'est vraiment ça, chez Léotard, qui me touche, c'est qu'il donne... à fond un truc.
Sans
et
tricher,
ça a dû être tellement dur pour lui aussi l'après. Et...
Ah bah il n'est pas sorti indemne de tous les rôles.
Exactement, c'est pour ça. Ouais. Et c'est ça que je trouve beau.
Yannick François, je parlais de vous tout à l'heure. Merci d'être à ce micro. Vous êtes pédopsychiatre et psychiatre. Vous avez été consultant pour la série À l'intérieur. Ça veut dire, votre rôle précisément, c'est que tous les termes employés, la manière dont on évoque les patients ou les traitements soient fidèles à la réalité, c'est ça?
Mon propos principal était de ne pas caricaturer. C'était surtout de ne pas, dans tout ce que je peux voir concernant la folie ou les fous, ou les institutions psychiatriques, c'est la caricature qui domine. Et donc,
est-ce que là, on est proche de la réalité avec cette série?
Oui. Avec les limites imposées par
le genre,
ouais. Effectivement, donc en effet télévisuel, etc. Bref, c'est pas un long métrage. Mais quand Bruno Degas et Jeanne Le Guillou, c'est-à-dire les scénaristes, m'ont proposé de participer en tant que consultant à ce projet, ce qui m'importait essentiellement, c'est qu'effectivement, on ne soit pas dans la caricature. En tous les cas, qu'on s'en éloigne le plus possible. Je sais que, compte tenu du genre de ce qu'on disait, en effet, on ne peut être qu'à un moment donné dans la caricature, mais il s'agissait de présenter des gens vivants. Tout à l'heure, Noémie Schmitt évoquait la vie. Et sous tous ses angles. Et je crois que c'est ça dont il est question, du côté des fous. Les fous sont du côté de la vie, paradoxalement.
On disait justement que la frontière entre la folie et la normalité est toujours fragile. Ce qui définit la normalité, c'est quoi? C'est la majorité. C'est, dès l'instant où quelqu'un ne ressemble pas à tous les autres, on va dire il est fou. Mais on met dans cette case fou, d'ailleurs même dans les rôles qui sont portés dans la série, des personnes qui ne le sont pas plus que d'autres. Enfin,
Alors chaque société définit ses normes. Ça, c'est le premier élément. Après, l'écart par rapport à la norme est du côté effectivement le plus souvent du côté de la souffrance. Donc la normalité en tant que telle, c'est pas un absolu, c'est pas une catégorie absolue, indépendante de l'époque.
Donc les fous que l'on met, parce qu'il y a les fous géniaux aussi, il y a les artistes, les créateurs, on peut dire, c'est une folie que de faire tel ou tel spectacle ou telle ou telle œuvre. Ceux que l'on met dans des hôpitaux psychiatriques, c'est pour les protéger d'abord, pour pas qu'ils se fassent de mal à eux-mêmes ou du mal aux autres. À quel moment?
Effectivement.
Moi, j'ai appris par exemple dans la série que certains malades demandaient à être ou patients, je sais pas s'il faut dire quel terme il faut employer.
Patients.
Patients demandaient à être eux-mêmes.
Tout à fait. Protégés de internés. À être effectivement enfermés dans ce qu'on appelle des chambres d'isolement. Et effectivement, pouvaient le demander parce que effectivement, au fond, ce qui se passe entre la normalité, ce que vous évoquiez, et puis la folie, et il y a quelque chose qui est un continuum. Il n'y a pas une rupture. Il n'y a pas d'un côté les pas fous et puis de l'autre côté ceux qui sont fous. Il y a quelque chose qui se met pour quelqu'un à déraper, à plus marcher, à dysfonctionner.
On peut tous basculer, quoi.
On peut tous glisser, mais à ça j'ajoute quelque chose qui me paraît absolument essentiel. Du coup, il y a de la survie aussi. Ouais. En même temps qu'il y a de la souffrance qui peut se générer elle-même, s'auto-générer, s'amplifier elle-même, il y a aussi derrière tout ça une volonté de survie, de vivre. Et c'est pour ça que j'évoquais ce que vous disiez tout à l'heure, Noémie. Le fait qu'il y a aussi de la vie, une volonté de vivre. Et donc quand vous évoquez les fous géniaux, ben oui, là on est du côté de la vie. Hein, on a un Van Gogh qui par exemple va effectivement à la fois se couper l'oreille, partir complètement en vrille, mais aussi être archi-productif, d'une productivité absolument hallucinante.
Vous voulez dire qu'en d'autres temps, on l'aurait peut-être enfermé, il n'aurait pas pu peindre l'étoile?
Non, même à un moment, il y avait Camille Claudel qui était enfermé, qui a passé 30 ans en hôpital psychiatrique.
Qui aurait pu sortir de son hôpital psychiatrique, sa correspondance le montre. Et le désintérêt de sa famille, de sa mère et même de son frère, qui est assez abominable quand même.
Effroyable.
Des demandes pathétiques de sa part, c'est juste une parenthèse.
Non, mais c'est tout à fait juste. Mais c'est important parce qu'effectivement...
Mais c'est présent dans la série aussi, à savoir, je reste pas, je sors, est-ce que la famille autorise ou pas?
Voilà, et la pression familiale qui à l'époque, donc concernant la famille Claudel, a été extrêmement forte, avec effectivement... Effectivement, son frère est venu la voir une fois tous les 2-3 ans, quoi, quelque chose
comme
ça.
Il a fait son apologie une fois qu'elle était morte en disant que c'était un génie.
Absolument. Donc, on est passé, pour passer, entre guillemets, à un sujet plus, à une approche plus générale, on est passé, il y a 30, 40, 50 ans, de ce qui était effectivement de l'internement, de l'enfermement au sens strict. On en faisait sortir quelques-uns de temps en temps pour dire qu'on ne servait pas à rien. À aujourd'hui, depuis 40 ans, on va dire, à quelque chose qui est une durée moyenne d'hospitalisation, c'est une cinquantaine de jours. Durée moyenne, ce qui suppose aussi les hospitalisations, ce qui implique les hospitalisations très longues. Bref, une durée moyenne d'hospitalisation, c'est une cinquantaine de jours. Donc on est passé d'un monde, en effet, de style Camille Claudel, où elle a passé 30 ans à l'HP, à un monde qui est celui d'aujourd'hui, où la DMH, ou durée moyenne d'hospitalisation, c'est 50 jours, ou même plutôt 20.
Ce que l'on voit dans la série sur les électrochocs, sur les médicaments, par moments des faux médicaments ou autres, ça aussi, ça reflète la réalité.
Dans quel sens vous évoquez cette...
On continue par exemple de choquer.
Bien sûr, mais dans des conditions qui n'ont rien à voir avec celles de l'usage des électrochocs il y a ne sais
pas
combien
de
temps.
Oui, c'est pas vol au-dessus d'un nid de coucou, c'est très différent.
Ah, pas du tout.
D'accord.
À l'époque, si on s'en tient juste aux électrochocs, effectivement, on ne sait pas très bien comment ça marche, mais ça marche hein, dans les mélancolies.
Et ça peut effacer la mémoire, les électrochocs?
Il y a des effets sur la mémoire, en effet.
D'accord.
Tout à fait, oui, effectivement.
Dans l'électrochoc, il y a choc hein, quand même.
Oui, tout à fait. Ah ben, vous savez qu'au départ, l'électrochoc, c'était expérimenté, ça servait à semer les animaux avant de les abattre à l'abattoir.
Et est-ce que dans une clinique psychiatrique, on peut avoir autant de patients différents avec autant de pathologies différentes? Avoir une érotomane qui a la chambre à côté d'un dépressif,
d'un mythomane,
un autiste Asperger.
Ouais. Tout à fait. Alors effectivement, ça fait l'objet de, et ça continue à faire l'objet de nombreux débats. Est-ce qu'on sépare les genres, entre guillemets, ou est-ce qu'au contraire, on s'appuie sur ce mélange des genres pour que quelqu'un qui est très psychotique soit au contact de quelqu'un qui l'est beaucoup moins ou qui est beaucoup plus adapté. Donc ça, c'est pas un débat sur lequel on peut trancher de façon aussi simple. Chaque structure, chaque institution met en place des dispositifs qui sont de nature différente entre la séparation pure et dure des autistes, par exemple, d'un côté, et puis quelque chose qui cherche à mêler, en effet, des pathologies et des approches.
Ce qu'il y a dans la série, c'est qu'il y a aussi des histoires d'amour entre patients. Est-ce que ça, c'est...
Oui. Alors ça, c'est tout à fait intéressant parce que dans un hôpital psychiatrique ou une clinique psychiatrique, il y a vraiment deux mondes. Il y a le monde des soignants et il y a le monde des patients. Et le monde des patients est souvent totalement méconnu de la part, du côté des soignants. C'est tout à fait passionnant.
Et ça vous amuse même en le disant, vous souriez.
Oui, 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 tout à fait, parce que...
Ils sont du côté de la vie, vous l'avez dit.
Ah, je suis toujours passionné quand je vois émerger ce monde des patients. Quand un patient, si j'ai une petite seconde, un patient qui va beaucoup mieux au niveau alcoolisme, par exemple, bon, voilà, au bout de 3 semaines, etc., il va faire sa première sortie de la clinique pour aller... dans un bistrot. Il se fait accompagner par d'autres patients. C'est lui qui organise sa sortie. Il se fait accompagner. Il va au bistrot. Et il va prendre un Vitelmonte. Et il revient. Il est très heureux. Et ça, c'est entre patients que ça s'est organisé. Les soignants n'y sont pour rien. Ils ont signé la permission de sortie, mais c'est tout. Et je trouve ça absolument fascinant qu'il y ait ce monde parallèle qui s'instaure entre les patients et qui souvent les aide considérablement.
Consultant donc pour la série À l'intérieur que vous retrouverez lundi sur France 2, Yannick François qui est venu spécialement, encore merci, de cette belle région d'Aix-en-Provence pour venir à cette émission. Merci beaucoup Yannick.
C'est moi qui vous remercie.
Bon retour.
Je vous en prie. Juste une petite incise qui me paraît extrêmement importante. Je décrivais l'état de la psychiatrie il y a 30-40 ans. Nous sommes dans une situation aujourd'hui où nous allons... si rien n'est fait, revenir à cette situation.
Elle est dramatique, la situation de la psychiatrie en France aujourd'hui.
Absolument. On est dans une situation absolument dramatique. On a 20 millions de patients hospitalisés, 20 millions de consultations, et on n'a plus les moyens. Du tout. Que ce soit chez les adultes, c'est quasiment plié. Et chez les enfants, donc je suis pédopsychiatre aussi, surtout. C'est 6 mois, 1 an d'attente pour avoir un rendez-vous. Et c'est dramatique pour un enfant. Je voulais me permettre d'ajouter ça. Je vous remercie de me le permettre.
Tanguy Pastureau, bonjour Tanguy.
Bonjour.
Il y a un autre problème, c'est celui de la farine de sarrasin.
Oui, Intermarché, les mousquetaires, hein, ont rappelé hier des lots de farine bio car ils contiennent des extraits de plantes hallucinogènes. Résultat, depuis 3 jours dans les crèmes. Tout le monde plane, c'est l'orgie, les gens font l'amour comme dans le dernier tango à Paris, mais avec du parmesan breton. Demi-sel, bien sûr.
Moi, je voulais faire des crêpes, ça tombe bien.
Pas d'épices.
Après les infos de midi.
Tu perds la boule.
La bande originale avec Léa Cadeau-Boudéry.
Bonjour à tous.
Avec Daniel Morin.
Bonjour.
Bonjour. Tanguy Pastureau, Jérémy Crédville et nos invités Noémie Schneider et Hippolyte Girardot. Oui, Schmitt, évidemment. Schmitt. Non, parce que j'ai une copine suissesse aussi que j'embrasse au passage.
Parce que c'est une raison pour raconter ta vie.
Non, c'est une raison pour m'excuser de ce dérapage.
Voilà.
Schmitt. J'ai l'impression d'ailleurs, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une éducation suisse ou suissesse en particulier? Parce que ma copine est aussi. Déjantée. Ouais, est aussi déjantée que vous. Non, mais blague à part.
Oui, mais elle est Genève, la Suisse, votre copine. Il faut y aller pour le voir.
Elle est plutôt suisse allemande.
On connaît Marina aussi. Marina est suisse. Marina Rollman est suisse.
Oui, elle a une copine, c'est une collègue.
Godard aussi.
Non, mais l'éducation que vous avez reçue de vos parents était dans une liberté totale, d'abord de pouvoir essayer les arts, la musique, le sport.
Le ski.
Non, je ne sais pas si c'était une liberté totale. C'était quand même assez cadré. La Suisse, c'est un mélange de plein de choses très différentes et il y a à boire
et
à manger.
De rigueur et de liberté.
Voilà, ouais, c'est assez particulier, mais je vous invite à y aller, venir manger une raclette en Valais.
Le pain d'épices à Montreuil, c'est fini. La raquette, oui, très bien. Vous avez pris du plaisir, Hippolyte Girardot, à tourner cette série À l'intérieur qui paraît comme ça. C'est un thriller.
J'ai répondu trop tôt. Oui. Non, mais d'abord, j'aime beaucoup les huis clos. Parce que c'est une forme littéraire au départ, mais qui est formidable, qui permet de dire, à partir du moment où on met tout le monde dans un endroit, on met évidemment un cadavre, ça c'est obligatoire, effectivement tout le monde peut être coupable. Mmh. Ça c'est formidable. Il y avait des règles d'ailleurs qui s'appelaient le décalogue de Knox, qui était, il y a un club en fait en Angleterre qui a été initié par tous ces auteurs, dont Agatha Christie évidemment a été présidente pendant très longtemps, et qui avait fait une sorte de dogme par rapport à qu'est-ce qu'on pouvait écrire et ne pas écrire. Alors, il y a plein de choses choses. C'est très drôle, très marrant, très intéressant. Et il y en avait un notamment qui disait « pas de chinois dans l'histoire ». Et pourquoi ? Alors évidemment, aujourd'hui, c'est très, très raciste évidemment. De dire ça. Mais à l'époque, en fait, ce qui se passait, c'est comme les Chinois étaient loin, perçus comme des ennemis absolus, etc.
C'est forcément on disait dès que,
oui, voilà, ils devenaient évidemment le coupable. Ça a changé à partir du moment où ils ont trouvé cette, ce, comment dire, cet enquêteur qui s'appelait Charlie Chan ou un truc comme ça, qui était donc un Chinois. Et ça a changé un peu l'idée qu'on pouvait se faire. Et ce que j'ai bien aimé dans cette histoire qu'on a fait.
Il
n'y
a pas de Chinois.
Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est très bien, c'est qu'on est tous possiblement des Chinois. À partir du moment où on est fou. Et donc ça, comment dire, ça resserrait encore cette espèce de huis clos. Et ça j'aimais beaucoup. Et donc mon objectif à moi à jouer, et j'adorais ça évidemment, c'était de maintenir évidemment le maximum
l'ambiguïté,
même sous le couvert, enfin de mon personnage, quoi, de ma fonction en fait, qui était le gardien de ces brebis.
Et bien vous êtes peut-être le coupable et ça marche quand même très très bien.
Peut-être.
Ouais. Who knows.
En fait tout le monde est soupçonné.
Bonne tête de coupable.
Bonne tête de chinois, je vais te dire.
En suivant lundi.
Bridé, hein.
Tous les lundis, il y a encore deux lundis à suivre sur France 2 à l'intérieur. Noémie Schmitt et Hippolyte Girardot sont nos invités. Mais d'abord, voici Tanguy Pasturo. Tanguy, je suis sûr et je sais que vous mangez sainement.
Oui, parce que je pars du principe que la beauté intérieure se reflète à l'extérieur.
C'est beau,
je ne sais plus qui a dit ça, soit Olivier Adriaco en 97 dans Femme Actuelle, soit un ami à moi qui est boucher, soit la marque Björg. Par exemple, je mange tout bio. Ça me coûte un fric monstre. Hein. Quand je vais faire mes courses à la Vie Claire, je dois me prostituer 4 heures devant le magasin si je veux avoir de quoi acheter du pain d'épices. Si bien que j'ai développé une sorte de phobie des produits non bio. J'en ai peur. Cet été à Quiberon, il y avait une animation Nesquik. Quand Quickie, le lapin, s'est approché de moi, mais j'ai cru que j'allais crever. J'étais dans le même état de terreur qu'un vendeur de lampes à bronzer qui dans la rue croiserait Isabelle Huppert. Pour me ranimer, il a fallu me faire boire 14 Yogi Tea bio au gingembre. Ce sont des thés avec un message positif sur l'étiquette, comme « Sois la source qui répand la lumière tel un phare ». Enfin, ce genre de conneries, on a l'impression de lire les paroles d'une chanson de Zaz. Même Christophe André, le gourou de France Inter, qui est rémunéré en feuilles de lotus, pas la plante, le PQ, quand il lit une étiquette de Yogi Tea, a envie de tester la vie d'Iggy Pop. Bref, tout ça pour vous dire que je suis super sain. Si un jour je me fais harakiri, afin de protester contre le fait qu'on a repris il y a 4 jours et que Riyad Satouf n'a toujours pas été invité, et ben mon colon sera tellement nickel qu'il sera servi en morceaux à la cantine de Radio France. Le seul problème du bio, je vais vous dire, c'est l'image qui véhicule. C'est cucu. Vous allez chez Bio C'est Bon, on a l'impression que c'est un monde idéal en miniature. On culpabilise même pas quand on prend des bonbons, parce que sur le paquet, vous avez la photo de l'artisan qui a roulé un à un les petits réglisses entre ses doigts de pied entouré de ses chiens. Les guêpes surprises par l'éclat naturel des pommes en rayon n'osent s'en approcher. Les mouches suivent, elles, cette cliente non épilée des aisselles, mais qui, dans un magasin bio, échappe au jugement d'autrui. Michel Houellebecq à Naturalia est quelqu'un que les gens définissent comme étant plutôt soigné. Le terme propret est employé à son encontre. Certains le lèchent, pensant qu'il s'agit d'une betterave bio pleine de terre à qui on aurait foutu une chemise. Tout le monde est dans l'acceptation de l'autre. Et du coup, c'est gnangnan. Alors que chez Leclerc, quand vous prenez du Garbit, ça, c'est destroy. De nos jours, ça équivaut à se faire 14 lignes de coke en 79 avec Grace Jones dans les Wawa du Palace. Mais ça, c'est fini, puisqu'hier, on apprenait que le bio aussi est rock'n'roll. Yeah! Ça va être le dawa dans les AMAP. En effet, Intermarché a rappelé des lots de farine de sarrasin bio contenant une plante hallucinogène. Elle devait pousser dans un champ. Le meunier s'est dit, tiens, ce truc, je connais pas, rien à foutre, je vais la mettre dans la farine. Il a aussi mis dedans un chat qui dormait au soleil et son fils Enzo, 7 ans, parce que le petit refusait de manger sa soupe. Bon, tout ça a moulu et maintenant, c'est dangereux. Parce qu'ingérer cette farine, dit Intermarché, et on peut les croire, il y a 2 semaines, ils avaient annoncé les 6 brochettes de porc à 5,90, ils l'ont fait. Intermarché dit que ça peut entraîner des hallucinations. On voit Benoît Hamon à l'Elysée, Bernard Montiel en train de lire. Mais aussi des paroles incohérentes. Si par exemple Marine Le Pen se met à crier « Allez, on ouvre les frontières, on laisse entrer tous les migrants, même les noirs », c'est qu'elle a mangé de la farine de sarrasin bio. Ou alors qu'une crêpière de gauche a voulu la piéger et a fabriqué sa crêpe au jambon avec ce sarrasin de l'enfer.
Il paraît que le magazine dit également que ça peut entraîner une désorientation spatio-temporelle.
Oui, Nagui. Et c'est là qu'on réalise que Christine and the Queens, depuis 4 ans, on la regarde danser en se disant « Purée, elle a quand même un problème de motricité. » Eh bien, si ça se trouve, depuis le début de sa carrière, elle tourne au sarrasin bio. Et le pire, c'est que cette farine produite en France a été distribuée dans plein de pays, dont la Suisse, justement. Voilà. Non, mais là-bas, des cas d'hallucination ont été détectés. Des gens jettent leur Rolex dans le lac Léman, leur Rolex dans le lac Léman, hurlant « J'aime autant une montre Swatch !» Enfin, certains hurlent « Vive la banque postale !» mais aussi en Hollande. Ah bon, là, si à Amsterdam, un mec se fait des crêpes et ensuite sort se balader, on ne verra pas la différence avec les autres. Hein. C'est l'avantage de la Hollande. Même Amélie Nothomb avec un chapeau de 7 mètres de haut passe pour quelqu'un de banal. Il y a aussi l'Espagne, la Roumanie, bref, la moitié de l'Europe va être défoncée. Ah bah, il n'avait pas imaginé ça, Robert Schumann. Hein, mais au final, il aurait eu le même parcours que le groupe Jefferson Airplane. Alors attention, auditeur de France Inter, tu as peut-être ingéré de la farine bio-hallucinogène en voulant faire des cookies pour ton petit-fils. Comment t'en rendre compte? C'est simple. Si tu vis à Mulhouse et que tu as le projet d'emmener le petit à la mer cet après-midi, c'est que tu as mangé un cookie. Si ton petit-fils fait la taille de David Douillet, qu'il est jaune, a des antennes, un t-shirt à l'effigie de Jean Amadou et te répond en barissant, puisque c'est devenu un éléphant d'Asie, qu'il est très enthousiaste à l'idée d'aller à la mer, c'est que tu as mangé deux cookies ou plus. Donc, attention, la farine contaminée est de la marque Ma Vie Sans Gluten. Ah ouais. Dans 10 ans, chez Evelyne Thomas, des gens en pleurs viendront raconter comment leur allergie au gluten les a fait sombrer dans la drogue. Sur l'un des lots de farine, il y a écrit SARB 170419 TNB. Hein. Donc, auditeur de France Inter, regarde bien l'emballage de ta farine bio s'il n'y a pas ce code. Et si à la place des numéros, tu vois des fourmis vertes et roses qui te font coucou tout en dansant le moonwalk, eh bien, c'est que c'est trop tard.
Merci, Tanguy Passero.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Avant de retrouver Daniel Morin, voici l'interro de tout ce qui se passe dans notre culture, notre belle culture sur cette planète. Une question, tiens, musicale, puisque Noémie Schmitt, vous aimez chanter, Hippolyte Girardot, vous aimez également la musique, vous êtes fan de musique, vous l'avez souvent déclamé ici. Quelle est la particularité du festival de musique qui s'appelle Traversée, au pluriel? C'est un festival qui se déroule jusqu'à dimanche sur l'île de Taïou.
C'est pour les sourds.
Au large du Cotentin.
Faut traverser sur un bateau, en randonnant.
On traverse à pied, Noémie. Quand la mer se retire.
Traverser, c'est...
Un festival sur un bateau?
C'est un festival de musique de flûte traversière.
Ah, pas bête.
Non, traverser, flûte traversière.
Est-ce que genre les musiciens sont...
On traverse à pied pour s'y rendre à marée basse.
Ouais,
on randonne,
non, c'est ça. Donc ça dépend en fait des marées, de la lune.
Ah, oui,
marées, non, c'est original. Mais tu savais?
Oui, je le savais.
Ok, d'accord. Quelle est la star mondiale qui vient d'annoncer qu'elle avait joué dans la saison 3 de Casa de
Papel? Le foot.
Oui, exactement.
Ouais, comment il s'appelait?
Comment tu l'appelais?
J'ai dit le foot, le mec du foot.
Le mec du foot, Neymar. Il est carrément, il est propriétaire du football maintenant, Neymar.
Est-ce qu'il joue debout?
En fait, ce qui est... il se roule par terre et il a mal au pied.
Il se prend une balle dans le pied direct.
Non, en fait, c'est un truc qui est dingue. Je ne sais pas si vous avez vu Casa des Papel. Ouais. C'est que dans cette dernière saison, enfin dernière diffusée, on attend la suivante. Oui. La dernière diffusée, il n'y était pas. Et en fait, ils font un coup de com' en remettant les épisodes 6 et 8, je crois, enfin je ne sais plus. Ils remettent des épisodes où là, il apparaît, mais quelques mini-secondes, où il est en prêtre ou moine dans une...
Ça lui va tellement bien.
Attends. Et il dit, si, il a le masque.
Il a le masque.
Il a le masque d'Ali, il enlève comme ça la capuche, il enlève le masque, il dit, je n'aime pas le foot, je n'aime pas la fête.
Et je n'aime pas payer mes impôts.
Humour. J'ai un pied solide.
Et Noémie, militante. C'est la nouvelle héroïne qui va interpréter Corinne Maziro. Je viens de donner une réponse. Donc
C'est Corinne Maziro.
C'était quoi la question?
C'est une nouvelle héroïne.
Ouais, non. Mais ouais, c'est meilleur. Elle est pas commissaire. Elle est quoi?
Elle est flic?
Non.
Elle est juge.
Présidente de la République?
Non.
Un homme?
Ça sera sur. Ça va. Je crois que c'est sur TF1. Là, à partir dans 15 jours.
Médecin?
Non.
C'est un métier ou c'est un? Elle a un pouvoir?
C'est une vocation.
C'est une vocation.
Sœur. Nonne, oui, bien joué, yes. Noémie. Oui, absolument. Bonne sœur. C'est la bonne sœur colombine, interprétée par Corinne Maziro, capitaine Marlowe. Vous regardez beaucoup les séries ou pas, Noémie Schmitt? Dites la vérité.
Je regarde beaucoup de séries, mais pas celle avec Corinne Maziro.
D'accord, ok. C'est Capitaine Marlowe.
Je connais pas cette série.
D'accord, mais vous regardez sur Netflix, sur Amazon?
Oui,
sur,
je regarde beaucoup de séries, ouais, j'aime beaucoup. Ouais. J'aime bien Rick and Morty, par exemple.
Ah oui, c'est
d'accord.
C'est vraiment génial.
Tu connais ça toi aussi?
Oui, c'est un dessin animé.
Ouais.
Ok. Et vous, Hippolyte, est-ce que vous êtes accro aux séries Casa des Papel ou Years
and
Years?
Non, pas tellement. Ça me fait rire, mais non, j'aime beaucoup les séries de politique américaine, anglaise. Voilà, j'ai adoré Years and Years, par exemple, que j'ai trouvé absolument fabuleux,
on en parle
très
jours,
intelligent.
Là.
Vous avez tout. Bah, moi, j'ai rien vu. Alors, est-ce qu'il faut que je la voie?
Ah, oui, obligatoire. C'est quelque chose de. Voilà, c'est obligatoire.
Ok.
Tout simplement.
Je finis.
Il y a une série démente sur le fondateur de Fox News, interprété par par Russell Crowe, qui raconte comment l'Amérique de Trump s'est faite. C'est fantastique, quoi. Il n'y a qu'une série qui peut le faire, parce que c'est 6 épisodes qui montrent, au fil des années, comment ça monte et comment... là où on en est aujourd'hui.
Russell Crowe qui a pris 100 kilos pour faire
ouais,
le truc.
Qui est fantastique, quoi. Fantastique.
Et tout aussi fantastique, et lui aussi a pris du poids, c'est Daniel Morin.
Le mec s'est recevable. Ah non, mais c'est seul. Alors c'est évident, hein, c'est l'info qui a tenu en haleine le monde tout entier, le transfert de Neymar. Ou pas. Le Brésilien du PSG ne veut plus jouer à Paris. Ça le saoule, Paris. Le RER, toujours en retard, pas pratique pour aller à l'entraînement. Pourquoi rester en France maintenant que Thierry Beccaro arrête Motus? Non. Il veut aller à Barcelone. Là-bas, c'est bien, c'est beau. Puis il y a Manuel Valls. C'est rien que pour ça. On va aller tous vivre à Barcelone. Une vraie guerre des nerfs, ce transfert Barcelone, qui fait pas de propositions assez intéressantes. Le Real Madrid qui essaye d'en profiter pour choper le joueur. La Juventus Turin qui se positionne aussi. Le PSG demande beaucoup d'argent. Du coup, les autres clubs propose une partie en cash, plus des joueurs en échange, plus tout et n'importe quoi. C'est le bordel. Alors les PSG, oui. Oui, Madrid à l'appareil. Pour Neymar, je propose 100 millions plus 2 joueurs. Ah, c'est pas assez. Ah, hiro de puta. Alors les PSG, oui. C'est Barcelone au téléphone. Pour Neymar, je propose 100 millions plus 3 joueurs. C'est pas assez. Ah, cabron de merde. Alors les PSG, oui. C'est la Touraine au téléphone. Je propose 100 millions plus 3 joueurs plus l'encyclopédie Larousse des fromages. C'est pas assez. T'as testa de cazzo. Alors le PSG, oui, c'est Madrid encore. Je propose 100 millions plus 3 joueurs plus l'intégrale des Mille Flammeurs en flamenco. Pas assez.
Aïe, cabron. Ah non, c'est Barcelone encore. 100 millions plus 3 joueurs plus un week-end all inclusive à Cuba avec des putas.
Pas assez.
Corona
est allemand. Alors, ici Toledo, 100 millions plus 3 joueurs plus une Fiat 500 plus 200 kilos de cocaïne. Passé. Ça a duré tout l'été. Tout ça pour qu'au final, Neymar reste peut-être ici à Paris. Remarquez, ça n'arrive pas qu'au foot. Hein. Ici à France Inter, c'était chaud, c'était hyper chaud. Allez, je vous mets dans la confidence. On a failli perdre notre vedette, on a failli perdre Nagui.
Ah bon?
Allô, France Inter?
Oui!
C'est RTL. Alors, pour Nagui, on vous propose 10 000 euros plus Stéphane Bern plus un t-shirt Julien Courbet. Pas mal, mais pas assez. Allô, France Inter?
Oui?
C'est Europe 1. Pour Nagui, on vous propose 30 000 euros plus Laurent Cabrol plus Julie plus un pins Patrick Cohen. C'est tentant, mais non.
Allô, France Inter?
Oui,
c'est Radio Courtoisie.
Allez, allez.
Pour marquer l'ouverture d'esprit de notre station, nous souhaitons embaucher un fantaisiste sarrasin de style Nagui. Pour ce transfert, on vous propose 300 000 nouveaux francs, un portrait dédicacé du maréchal Pétain, plus une boîte de préparation goût Vichy.
Au final, Nagui est resté.
J'ai peur.
Dommage. Ça aurait...
Dis donc.
Dommage, ça aurait été chic quand même, le portrait du maréchal Pétain sur la façade de Radio France.
Merci. Avec Nagui. À l'intérieur, cette très bonne série, bien réalisée, bien jouée, et puis remplie, c'est un vrai thriller, c'est-à-dire qu'on sursaute, on a peur, c'est un polar aussi, on suit l'enquête. Non, mais il y a des moments où on se dit, elle va ouvrir la porte, il va encore y avoir une horreur derrière cette porte. Et ben non, ça arrive pas, et quand on s'y attend pas, bing, il se passe un truc. Non, c'est, et puis c'est...
On peut faire des paris, pour savoir un peu, marquer sur un petit bout de papier.
Ouais. Tu passes de sacrées soirées chez Leïla.
Mais c'est bien d'essayer de résoudre l'enquête.
Parlons de l'avenir, là c'est l'avenir immédiat, tous les lundis sur France 2, mais en janvier, Noémie Schmidt, vous serez à l'affiche des Veto, c'est ça ? Un film de Julie Manoukian, la sœur 2. Ou la fille 2. Non, c'est la fille d'André, je crois.
Tout à fait.
C'est la l'homonyme 2.
Ouais. Quel est votre personnage dans les Veto ?
Je joue une étudiante en vétérinaire à l'école d'Alfort qui se retrouve coincée dans la campagne et qui n'a pas du tout envie d'être là et qui finalement découvre les charmes du fait d'être vétérinaire de campagne. C'est un film qui aborde aussi la désertification des campagnes.
Avec Louis Cornillac aussi.
Avec Louis Cornillac qui joue un vétérinaire de campagne aussi et qui me met le pied à l'étrier du coup... C'est le cas de dire.
Clovis qui est en train de réaliser d'ailleurs son nouveau film. Hippolyte, vous avez travaillé sur l'écriture de Bureau des légendes, du Bureau des légendes. Ouais. Vous qui êtes actuellement en tournage.
Oui, ils sont en train de tourner là. Oui.
Mais alors, quel est votre poids sur la série?
Mon poids?
Ouais.
Non, mais vous savez, c'est...
Tu pèses combien sur la série?
Non, parce que non, vous écrivez, est-ce qu'il y a un pôle d'auteur? Comment ça se passe?
En fait, quand on est... qu'on est engagé sur le BDL, on a non pas la responsabilité des arches générales qui est celle d'Éric Rochant, mais ensuite on travaille sur nos épisodes. On a chacun deux épisodes dont on est responsable. Et donc voilà, j'ai donc écrit deux épisodes, mais pas seul évidemment, avec Rochant aussi, et puis avec l'aide d'autres scénaristes qui sont avec nous.
D'accord. On vous retrouvera dans Je ne rêve que de vous, le nouveau film de Laurent Henneman avec Elsa Zieberstein et Émilie Dequesne.
Oui, qui raconte l'histoire une grande histoire d'amour entre Jeanne Reichenbach et Léon Blum pendant l'occupation.
Et le 11 mars prochain, La Daronne, de Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert, qui a essuyé une vanne tout à l'heure. Et là, quel est votre personnage ?
Je suis un flic, un commissaire de police, qui se fait, disons, berner par amour pour Isabelle.
Est-ce qu'il y a d'autres projets, Noémie ? Parce qu'il y a le film qui sort en janvier, mais j'imagine que vous êtes extrêmement sollicité aussi.
Je fais plein de trucs avec mes potes.
À part les pains d'épices.
À part des pains d'épices, on travaille sur de la musique, des projets de dessins animés, de 3D, de.
Et comme vous avez regardé théâtre, la technique du tournage, vous avez envie de réaliser vous-même votre
moi,
film.
Moi non, moi réaliser toute seule non, mais avec les collectifs avec lesquels je travaille, ouais, pourquoi pas faire des films.
Jérémy Crédville, qu'est-ce que vous avez retenu à l'intérieur de ce qu'on a raconté aujourd'hui de la série?
Mais moult choses. Non, déjà, j'ai retenu que, en fait, il y a plusieurs folies dans un même endroit, et du coup, ça crée forcément des suspicions sur chacun des trucs. Et moi, je savais pas qu'on mettait tous les fous, enfin, toutes les formes de folie dans un même
lieu.
Oui.
Ouais. Non, mais là, c'est pour
Albert.
Les besoins du scénario.
Oui.
Moi, ce que j'ai retenu, c'est pour les besoins du scénario, parce que dans les hôpitaux psychiatriques, on fait quand même plus attention à mélanger
à ne pas mélanger
les pathologies. Moi, ce que j'ai retenu, c'est le suspense formidable de
la série.
De la série, ouais, c'est
Daniel.
Formidable.
Bah, quand on voit la galerie de fous qu'il y a dans cette série, on se dit qu'on a peut-être moins envie de fréquenter ce qu'on considère comme sain d'esprit, mais plutôt se mélanger et d'aller les voir.
Ouais, c'est vrai. On sent qu'on pourrait avoir sa place là-dedans, en tout cas. Ouais.
Pourquoi tu me regardes?
J'ai une bonne nouvelle pour toi ce week-end, Leïla.
Qu'il faut faire confiance à personne, surtout pas à Hippolyte Girardot, à Noémie Schmitt, à tous les personnages de cette série.
Ils sont tous doubles. Ouais, ils sont tous doubles.
Ouais, il n'y en a pas un qui est clair.
Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on dise de cette série ou de votre rôle, Noémie Schmitt?
Quand vous serez mort. En Toscane.
Après le poteau.
Qu'est-ce que j'aimerais qu'on dise de moi, de mon personnage?
Oui, ou à l'intérieur, je sais pas.
De la série.
Vous aimeriez qu'on vous croise et qu'on vous dise j'ai vu la série ou je vous ai vu et.
Ce qui me ferait le plus plaisir, c'est que les gens s'y soient crus, et qu'ils aient cru à l'histoire et qu'ils aient été touchés.
Ah oui, c'est
très simple.
Ça fonctionne, oui, absolument. Ouais. Et vous, Hippolyte Girardot?
Bah, j'aimerais effectivement qu'on reconnaisse l'originalité du sujet, le renouvellement de ce qu'on appelle les whodunit dans un huis clos et la réalisation, qui un peu différente.
Et moderne,
et
absolument.
Un peu différent de ce qu'on voit d'habitude.
On peut saluer France 2 d'avoir permis d'ailleurs cette originalité-là.
Oui, tout à fait.
C'est pas une série comme les autres, au bon sens du terme.
Tout à fait.
Daniel Morin, des excuses à présenter.
En plein. Désolé, en premier pour Noémie Schmitt qui, à 11h04, en gros, était tout sourire et ravie de venir dans cette émission. Elle se retrouve une heure et demie plus tard, épuisée, souillée, lessivée, laminée, tambourinée, avec une énorme envie de chialer. C'est ça. Ah, l'effet bande originale. Eh ouais, on ruine le moral de tous les invités. Ne nous remerciez pas, on est comme ça, on est des salauds. Désolé pour les scouts nazis suisses qui ont été outés par Noémie Schmitt. Vous savez, le nazisme ici, en fait, en plus, on n'est pas contre. Leïla fait souvent des soirées rangers et casques à pointe. C'est très très sympa. Venez la prochaine fois, apportez du pain d'épices. Mais justement, désolé pour nos auditeurs apaisés et saints d'esprit qui ce matin ont été quelque peu déboussolé par nos invités. Bon, ça va, on avait juste un psychopathe prêt à tuer pour de la carbonara à trop cuite, une tapée du casque qui crie et qui parle aux fougères, et voilà, qui force ses voisins à manger du pain d'épices au shit. Ça me donne envie quand même de chialer, de rentrer chez moi. Monde de merde, je vais aller manger une raclette carbonara au pain d'épices.
C'est ça. Mais pas cuisiné par Hippolyte, sinon ça va. Non, mais sans blaguer, moi je suis sûr.
Avec de la farine.
Je suis sûr que vous êtes violent en cuisine. Je sais pas pourquoi vous m'avez fait peur tout à l'heure quand vous avez parlé des sauces et des pâtes.
Mes enfants vont être ravis de vous entendre. Je le savais, il l'a dit.
J'en reparlerai, nous en reparlerons avec Anna Girardot la semaine prochaine, qui sera notre invitée aux côtés de François Civil pour le nouveau film de Cédric Clapiche, De moi. Merci beaucoup Noémie Schmitt,
t'es
ravie de vous accueillir. Hippolyte Girardot, merci mille fois. À l'intérieur sur France 2 le lundi, enfin ce sera lundi prochain, et il y aura également lundi 9.